Radio Okapi.
Journal, je suis Moussa Opondi.
Situation politique confuse au Sud Kivu après la suspension lundi par la Cour d'appel du Sud Kivu de la notification de la déchéance du gouverneur de province. Le bureau de l'Assemblée provinciale rejette cette décision de justice. Opération conjointe FRDC et armée ougandaise. Dans ce journal, nous parlerons des défis à relever par ces hommes de troupes. Notre invité est Yakuba Diara, coordinateur terrain de l'ONG Corps Médical International au Sud Kivu et dans le Tanganyika. Son organisation forme des prestataires de santé en provenance d'Uvira, Nundu, Fizi et Kimbi Lulenge. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par la situation politique qui est toujours confuse au Sud Kivu. Le juge des référés de la Cour d'appel du Sud Kivu a suspendu la notification de la déchéance du gouvernement provincial adressée au gouverneur Théo Ngwabidje par l'Assemblée provinciale. Cette décision est contenue dans un arrêt rendu lundi. Le bureau de l'Assemblée provinciale rejette cette décision de justice alors que, pour le porte-parole du gouvernement provincial, le gouverneur de province déchu est réhabilité dans ses fonctions. Le point avec Cynthia Bachizi.
Au cours d'un point de presse tenu ce mardi à Bukavu, Jacques Kamanda, rapporteur de l'Assemblée provinciale, précise que l'arrêt de la Cour d'appel suspend uniquement l'acte de notification et non le vote de la motion de censure.
Il ressort de ce qui précède que l'ordonnance prise en référé suspension par le juge de la Cour d'appel du site Kivu n'a aucune incidence sur la décision de la plénière du 2 décembre 2021, prise à la suite du vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial, qui du reste est un acte politique de l'Assemblée provinciale et échappa totalement au référé suspension du juge administratif. La démission du gouvernement provincial Sud Kivu est devenue définitive.
En réaction, Jérémy Bassimana, porte-parole du gouvernement, parle de faux fuyant.
C'est l'acte qui transmettait la décision de l'Assemblée provinciale et cet acte est suspendu. C'est très clair, le gouverneur reprend automatiquement son travail avec le gouvernement provincial. Voilà l'élément très essentiel au lieu de dilatoire et de fonds fuyants.
Aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée provinciale en appelle au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour mettre fin à cet imbroglio politique qui caractérise actuellement la province du Sud Kivu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les FARDC et l'armée ougandaise UPDF ont lancé depuis une semaine des opérations conjointes contre les ADF dans la région de Beni. 1700 militaires ougandais sont déjà déployés sur place pendant que 300 autres y sont attendus pour faire un total de 2000 hommes sur terrain. Plusieurs défis attendent les FARDC et l'UPDF. Les explications de Martial Papimukeba.
Le premier défi est de sécuriser l'axe routier Kassindi-Beni, long d'environ 80 km. Une route d'intérêt économique ouvra la voie à l'Afrique de l'Est et à l'océan Indien à partir de la frontière congolaise de Kassindi-Lubiria. Les ADF y tentent des embuscades, tirs civils, incendies des véhicules et pillent des marchandises. Pourtant, c'est la seule voie d'exportation et d'importation qu'utilisent les opérateurs économiques de Beni et Butembo pour ravitailler en produits de première nécessité les Nord-Kivu, l'Ituri, et la Tchopo. Le deuxième défi est celui de faciliter les retours des populations dans plusieurs contrées du territoire de Beni, considéré comme grenier de la région, mais aujourd'hui abandonné suite aux attaques ADF. La sécurisation de la route Oicha-Komanda, reliant le Nord Kivu à l'Ituri, est un autre défi. Les ADF ayant rendu la circulation difficile sur cette route suite aux attaques et embuscades. La fin des tueries des civils à Beni et à Ituri est considérée comme le principal défi qui doit couronner les succès des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis, les forces armées de la RDC et la MONUSCO ont signé hier mardi le document axé sur la directive concernant la conduite des opérations conjointes de traque contre les forces négatives dans la partie est de la RDC. D'après le chef d'état-major général des FARDC, Célestin Balamoussense, il s'agit d'un cadre favorable qui permet de partager les valeurs et cultiver un climat climat de confiance mutuelle. L'histoire du peuple congolais, souligne le chef AMG, est de voir à travers cette directive l'application stricte de la force telle que prévue par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Assurance du commandant des forces de la MONUSCO avec qui le chef d'état-major général des FRDC a échangé après signature de la directive. Lieutenant général Marcos de Sa Afonso da Costa est au micro de Billy Van Lutumba.
Le commandant de la force, il y a déjà le feu vert de New York pour utiliser la force. Dans l'esprit du mandat des Nations Unies, bien sûr, et dans les standards des Nations Unies, en respectant les droits de l'homme. J'assume mon commandement, une troupe qui est constituée de 14 pays. Quand on va les observatoires militaires et l'état-major, on monte à 50. C'est-à-dire, tous ces pays ont donné l'autorisation à la Nations Unies à travers le commandant de la force de l'utiliser pour l'esprit des mandats, c'est-à-dire la protection des civils congolais, le soutien de l'armée congolaise, le maintien de l'intégrité territoriale du Congo. Ces mécanismes que nous avons signés aujourd'hui et avec la mise en place du CCO, on va travailler ensemble avec beaucoup de synergie, mutualisation, rationalisation d'efforts et être plus efficace. Nous n'avons pas un mandat pour soutenir des opérations FADC ou PDF, mais comme on va travailler dans le même théâtre d'opération, bien sûr qu'il doit avoir des coordinations pour éviter de dégâts collatéraux. Nous ne serons pas directement participants des opérations FADC ou PDF. C'est-à-dire, s'il y a de ce côté la MONUSCO qui peut appuyer, il y a de l'autre côté le PDF pour appuyer aussi, on peut faire une synergie et synchronisation.
L'Afrique ne sortira de ces divers conflits qu'avec la participation des femmes. Déclaration hier mardi à Kinshasa de Eve Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, au lancement des travaux de la conférence régionale autour du thème « Femmes, paix et sécurité en Afrique centrale ». Ce forum de deux jours connaît la participation d'une centaine de femmes venues de pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il a pour objectif de réfléchir sur la mise en place d'un réseau régional des femmes médiatrices de la CEAC en vue d'une meilleure mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies. On écoute un extrait de l'adresse de F. Bazaïba recueilli par Jean-Pierre Lali Coco.
Le réseau des femmes médiatrices de la CEAC et son bureau provisoire dont le lancement sera enclenché, je l'espère, au terme des présentes assises, constituera un puissant dispositif au service de la prévention, médiation et consolidation de la paix en Afrique centrale. Je puis déjà vous affirmer que la République démocratique du Congo n'hésitera pas un seul instant à y jouer un rôle avant-gardiste. Pour conclure, je vous exhorte à l'assiduité et à la détermination qui vous caractérise pour les résultats que nous attendons de vos cogitations. Je demeure confiant que l'Afrique ne sortira de ces divers conflits qu'avec la participation des femmes dans les mécanismes de prévention, de médiation et de la consolidation de la paix dans notre continent. L'Afrique, le berceau de l'humanité.
Notons que cette conférence de Kinshasa se tient grâce à l'appui matériel et financier du Bureau régional des Nations Unies en Afrique centrale, en collaboration avec la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et du Canada. Rendons-nous à Kananga où l'ONG Cri du peuple opprimé multiplie les sensibilisations sur les violences sexuelles dans les milieux scolaires avec les autorités scolaires. Hier mardi, la structure a rappelé qu'il y a ces pratiques, surtout sur des filles dans les écoles, et alerte pour qu'elles cessent. François Kadima nous en parle.
Dans le milieu scolaire, l'ONG Cri du peuple opprimé s'indigne de constater qu'il y a deux cas de violences sexuelles et les filles qui en sont victimes ne dénoncent pas par peur de représailles. Les autorités scolaires doivent permettre que ce genre de choses soient connues pour décourager les bourreaux. Marlène Delela, coordonnatrice de CPO, revient sur ce constat.
On a connu des cas comme ça, une fille qui était en relation avec un enseignant, d'une manière secrète, juste au point où elle a été engrossée. Cette fille se retrouve enceinte quand elle essaie de dire à l'enseignant, l'enseignant ne reconnaît pas, il refuse, et la fille était à la maison. Nous avons eu à prendre en charge cette fille, malheureusement.
Décidé de dénoncer désormais les violences sexuelles, un préfet dans une école à Kananga, qui a participé à cette sensibilisation, reconnaît qu'il y a deux cas dans leurs établissements, mais ils essayent d'appliquer les règlements intérieurs pour le gérer.
Il y a moyen qu'on arrive à dénoncer ces cas-là par les numéros vert qu'on nous a confié afin de dénoncer tous ces cas-là pour que la justice soit faite aux hommes qui se méconduisent envers les filles qui veulent évoluer avec leurs études au sein de l'école.
Notons que cette sensibilisation rentre dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et dans la province du Kwilu, c'est un marabout présumé violeur de sa cliente qui est aux arrêts depuis lundi. Cette dernière, âgée de 20 ans, est élève à l'Institut de Technique Médicale ITM de Gungu, dans le territoire du même nom. Selon le président de la société civile de Gungu qui livre l'information, la victime avait consulté ce marabout pour découvrir le voleur de ses biens, notamment un téléphone ainsi qu'une somme d'argent perdue. Joachim Kusamba demande que ce marabout soit jugé et subisse la rigueur de la loi au cas où la justice confirmait sa culpabilité. De l'autre côté, les sources policières sur place confirment également cette information. Irène Boma nous en dit plus.
D'après le président de la société civile de Gungu, les faits se sont déroulés au village Kabanji, situé à quelques kilomètres de Gungu, chef-lieu de ce territoire. Joachim Kusamba laisse entendre que la victime, âgée de 20 ans, avait consulté ses marabouts pour retrouver son téléphone ainsi que ses 40 000 francs congolais volés par des inconnus. Et elle a fini par être violée par ses marabouts dans son sanctuaire. À l'heure actuelle, le présumé auteur de ces viols est en détention à la prison de Gungu. Joachim Kusamba sollicite l'aboutissement de la procédure pour que les marabouts répondent de ces actes. Cette information est confirmée par le colonel José Kaputu, commandant de la police district de Gungu, qui précise ce qui suit.
Mais il a utilisé la ruse pour violer cette fille-là. Avant qu'il dénonce celui qui a volé les biens de cette fille-là, il devait d'abord coucher avec cette fille-là. Le fait de viol, nous avons même établi une réquisition à un médecin qui a confirmé le fait. C'est pourquoi nous avons déféré le médecin au parquet.
Cet officier de la police appelle la population à la vigilance. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
En bref, la 7e édition du réseau d'affaires Makutano s'est ouverte hier, mardi, au Pullman Hotel à Kinshasa, autour du thème Out of the Box, traduisé en français, sortir des sentiers battus. Cette année encore, le Business Club Makutano place à nouveau les secteurs privés africains sur les devants de la scène pour une journée intensive de business networking et de dialogue avec les décideurs publics. Lors de sa conférence inaugurale, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a passé en revue plusieurs secteurs de la vie, dont notamment les investissements. Selon le chef du gouvernement, l'amélioration du climat des affaires passe nécessairement par la réforme du système fiscal de la RDC et implique par ailleurs les investisseurs et investissements extérieurs. Arrivée hier soir à Kinshasa de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva effectue une visite de travail de 3 jours. Et c'est là juste avant le conseil d'administration du FMI qui se tiendra à la 2e quinzaine de ce mois de décembre. Ce mercredi, elle aura une séance de travail avec le président de la République à la cité de l'Union africaine à Kinshasa avant que les deux personnalités tiennent un point de presse. Retournons au sud Kivu, l'incendie du bâtiment de la poste de Bukavu. La population du Tanganyika en parle encore à Kalemie. C'est le cas de Grégoire Chamba Munangai, président d'une coopérative qui a rempli depuis le mois de juillet les formalités pour l'obtention du passeport à Bukavu. Grégoire Chamba Munangai appelle le gouvernement à décompter cette situation qui concerne environ 950 requérants. Il est au micro de François-Xavier Mibé.
Nous attendons. Le directeur de capture de Bukavu avait fait la liste de toutes les victimes. Il a déposé auprès du ministre des Affaires étrangères. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Personnellement, je devrais partir en Turquie, faire des démarches de notre coopérative pour obtenir des fonds par-ci par-là. Maintenant, je manque moyen d'aller là-bas par manque de passeport. On était au nombre de 950 personnes qui étaient sur place avec nous à Bukavu à l'époque, au mois de septembre. Il y avait les gens qui avaient des problèmes de santé, il y avait les gens qui avaient des problèmes des études, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui devraient aller dans des recherches scientifiques, tout ça. Que les autorités puissent songer à nous, qu'on puisse trouver une autre solution pour nous.
Actualité internationale.
Au Burundi, la prison centrale de la capitale Kitega a été ravagée par un incendie. Mardi matin, il y aurait 38 morts et 69 blessés graves, selon le vice-président burundais qui s'est rendu sur les lieux à la tête d'une délégation gouvernementale. Au Soudan, le bilan d'affrontements intercommunautaires le week-end dans la province du Darfour Ouest ne cesse de grimper. Il y aurait au moins 48 personnes tuées, selon un syndicat de médecins. Il s'agit du deuxième incident meurtrier en 3 semaines dans cette région. Les affrontements ont débuté samedi par une dispute entre 2 tribus. À l'origine des violences, une dispute samedi soir entre un vendeur de téléphone portable et son client. La dispute a rapidement dégénéré en affrontement entre membres des communautés, tribus arabes d'un côté et tribus issues des ethnies africaines de l'autre.
L'invité.
Au Sud Kivu, 40 prestataires de santé, dont en majorité les femmes accoucheuses, en provenance des zones de santé d'Uvira, de Nundu, de Fizi et Kimbi Lulelenge, suivent une série de formations dans la ville de Baraka. C'est l'ONG Corps Médical International, IMC, qui dirige ces formations en soins obstétricaux et néonatales d'urgence des bases, la planification et la consultation prénatale focalisée, ainsi que sur les audits des décès maternelle. Nous recevons en invité Yakuba Diara, coordinateur terrain de l'IMC Sud Kivu et Tanganyika. Ils s'entretient avec Fiston Goma.
Monsieur Yakuba Diara, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les problèmes que vous avez pu identifier pour programmer ces 3 formations à l'intention de prestataires de santé?
Dans le cadre même de la mise en œuvre de ces projets, comme vous savez, les zones de santé de Uvira, Nundu, Fizi et Kimilulenge ont vraiment beaucoup de difficultés en matière de renforcement de capacité, en termes de disponibilité, en termes de qualité de soins. Donc nous avons pu soumettre un petit projet à USAID, le Bureau des affaires humanitaires, qui a pu nous financer pendant 1 an. Et dans cette activité, nous avons souhaité vraiment renforcer les compétences des prestataires, parce que si souvent nous rentrons dans les centres de santé, dans les archives, nous constatons que vraiment il y a beaucoup de décès maternels, voilà, il y a beaucoup de références des femmes, il y a aussi les retards en matière de consultation prénatale. Donc nous avons voulu organiser ces différentes formations afin vraiment de résoudre tous ces problèmes, afin qu'il y ait vraiment moins de décès maternels, afin que les femmes vraiment reçoivent les soins de qualité lors des consultations prénatales, afin qu'il y ait moins de décès néonatales et ainsi de suite.
Quelle pourrait être, selon vous, la cause de tous ces problèmes? Surtout la mort infantile.
Il y a beaucoup de causes que nous pouvons citer. D'abord, il y a les causes structurelles, il y a aussi les causes organisationnelles. Les causes structurelles, ça c'est un peu compliqué, ça dépend pas trop, parce que dans chaque centre de santé, il faut qu'il y ait vraiment un plateau technique acceptable et adéquat. Donc nous faisons de notre mieux en partenariat avec le gouvernement, juste pour essayer vraiment de rehausser le niveau de ces plateaux techniques. En termes aussi d'organisation, il y a aussi l'organisation même des services dans les centres de santé, souvent la disponibilité, la continuité des soins. Tout ça, ce sont des problèmes. Ça aussi, il faut aussi ajouter la distance aussi et puis l'accessibilité. Donc, quand on tient compte de l'accessibilité, vraiment, les routes ne sont pas praticables. Quand on réfère une femme d'une structure A vers une structure B, donc sur le trajet, tout peut se passer. Voilà, il y a la distance. Tout ça mis ensemble, donc entraîne pas mal de problèmes. Et que nous essayons vraiment, à travers ces formations, à renforcer la compétence de ces prestataires afin qu'il y ait moins de références, afin que la barrière accessibilité puisse vraiment être levée et que le maximum de soins puisse être donné au niveau primaire avant qu'on y réfère au niveau secondaire.
Vous intervenez dans le territoire de Fizi où la région fait face à de l'insécurité, la présence de groupes armés. Est-ce que c'est vraiment facile de travailler dans ces contextes ici à Fizi?
C'est un problème vraiment très très crucial, l'insécurité, parce que quand il y a insécurité, l'accès humanitaire devient vraiment réduit. On n'a pas assez d'espace, mais bon, avec toutes les contraintes que nous avons, toutes les difficultés que nous avons, nous essayons quand même d'accéder vraiment aux bénéficiaires. Et puis aussi, vu même la nature de notre intervention, je pense que nous sommes même acceptés. C'est ce qui fait aussi que nous pouvons vraiment nous mouvoir dans la plupart de nos zones de santé sans grande difficulté.
Est-ce qu'il y a un certain comportement de la population qui pose problème?
C'est surtout l'utilisation des services de santé au bon moment. Beaucoup se font soigner à la maison, ou soit si on les voit venir dans les centres de santé, ça trouve que la situation est déjà compliquée et il est vraiment très très difficile d'intervenir et puis avoir un bon résultat. Donc l'appel que je lance est que nous demandons à nos mamans, à nos papas d'utiliser les centres de santé. Une femme enceinte par exemple, dès les 3 premiers mois de la grossesse, elle doit faire au moins une consultation prénatale. Mais dans la pratique, nous constatons que c'est seulement le dernier mois que la maman arrive juste juste pour voir si la grossesse évolue bien. Cela trouve que s'il y a des complications, surtout que la complication vraiment s'est déjà installée et que la gestion deviendra très difficile. Mais si on consulte les structures de santé très tôt, cela nous permettra vraiment aux prestataires de santé de déceler les complications et de prendre les mesures idoines en conséquence. C'est un problème récurrent, il faut se le dire, parce que quand on essaye de voir les indicateurs concernant par exemple l'utilisation par exemple de la quatrième consultation prénatale, nous voyons que vraiment ce taux est très bas. Comparativement à la première consultation, cela sous-entend que les femmes ne viennent que les derniers trimestres de la grossesse. Donc sinon, normalement, une maman qui doit continuer les 4 grossesses, je pense que les chiffres pourraient être un peu plus meilleurs. Quand même, c'est une réalité dans la zone. Même en dehors de ça aussi, les consultations même d'ordre médical, les aspects médicaux, nous constatons également la même chose. Ils restent à la maison, ils traînent, on essaye de voir les traduits thérapeutes, les maisons de prière. Et maintenant, quand on voit qu'il n'y a pas de solution, c'est en ce moment maintenant que nous utilisons les centres de santé. Souvent, ce n'est pas de leur faute parce que du compte tenu aussi de l'insécurité dans la zone, cela fait aussi que vraiment les malades ne parviennent pas à s'émouvoir à leur volonté. Donc tout ça aussi contribue vraiment à réduire l'utilisation des services de santé et maintenant augmenter les conséquences néfastes pour la population.
Monsieur Yacouba Diara, merci beaucoup.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Alain Irung Mouchinge, Jean-Claude Ntiala. La mise en onde, merci de nous avoir suivis.